aujourd'hui, 1er mai, je voulais laisser un message pour mon petit garçon qui s'appelle Marcile et qui est né le 1er mai 2004. Marcile va avoir 3 ans. Il est bouclé, il a les yeux marrons et en ce moment il est très jaloux de son papa. Il va avoir un vélo, il a un casque de vélo, une petite voiture, des livres. Quoi d'autre encore ? Je l'aime très fort, comme j'aime son petit frère. J'avais juste envie de dire ça. Voilà, je suis heureuse parce que j'ai 2 petits garçons, dont un qui va fêter son anniversaire, qui va avoir 3 ans. Essayez dans votre vie au quotidien de faire attention à ces toutes petites choses-là. Et je vais voter à gauche. Dimanche. Je vous embrasse. Au revoir.
Voilà, le message que je veux laisser, c'est que vraiment, cette émission, mais c'est fait pour exciter la jalousie des gens, mais que ces gens-là pensent donc qu'ils ont du travail, ils ont 5 semaines de vacances. Non, mais...
Alors, Jacques Seguela, qui a voté Royal au premier tour, va voter Sarko dimanche, c'est la grande information d'hier ou avant-hier. Ben, moi, ça m'a fait penser à des proches aussi.
Si Jacques Seguela est un con, et que je le dis froidement, comme ça, Jacques Seguela est un con. Que se passe-t-il, mesdames et messieurs les jurés ? Eh bien, mesdames et messieurs les jurés, il se passe qu'en vertu des lois démocratiques qui régissent ce pays, cet homme est en droit de me traîner en justice pour divulgation d'un secret militaire.
Voilà, moi aussi, des proches me manquent.
Isabelle de Voiron. En fait, ça fait très longtemps que j'écoute vos émissions. Merci beaucoup. C'était pour vous donner, en fait, le commentaire de ma petite fille de 4 ans et demi il y a quelques jours. En fait, voilà, elle a dit à son papa un soir, écoute, papa, il faut que tu fasses vraiment attention, hein, parce que Nicolas Sarkozy, il va t'attraper et puis il va te sortir de la France, hein, parce que toi, t'es un étranger. Et puis ensuite, elle a réfléchi un peu avec son frère et puis ils ont dit « Mais au fait, papa, nous, on est français, mais on est étrangers aussi. Et il va faire quoi, Nicolas Sarkozy, avec nous ?» Voilà, je vous rassure, tous les auditeurs, nous sommes que franco-allemands. Donc, comme c'est des petits blonds, ben, au revoir.
Le repère de Nîmes des amis de la base d'Igisuisse aura lieu ce mercredi 2 mai, à partir de 19h30, au Millefeuille, au 12 rue Saint-Mathieu, où Isabelle et Bernard seront absolument ravis de nous accueillir. Voilà, cette première au Millefeuille, et puis ensuite on continuera à se voir tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, comme nous en avions l'habitude. Au Millefeuille, donc, à partir de ce mercredi. Allez, venez nombreux, puis au revoir, à une prochaine.
Vous avez une vision archaïque qui est parfaitement méprisante de la classe ouvrière. La classe ouvrière ne vote plus pour vous, la classe ouvrière ne s'intéresse plus à vous. Alors arrêtez de vous prendre pour le défenseur de la classe ouvrière, vous n'êtes qu'un bourgeois qui parle aux bourgeois.
Oui, bonjour Daniel et bonjour à tout le monde. Ben dis donc, ils se lâchent hein, les gars. Hein. En ce moment, le répondeur, oulololololol, ça fait peur hein. Enfin, dire que Sarkozy représente ces gens, ben, ça en dit long quand même, hein. Mon Dieu, mais quelle haine. C'est de la haine, hein. Bon, nous, on a intérêt à se planquer, hein, vite, hein. Puis Daniel, t'as intérêt à faire tes valises, parce que, avec tout ce qu'ils nous promettent, ça va être quelque chose, hein. Oh la vache.
T'es pas jaloux, Daniel, si je te dis que j'adore les reportages de Pascal. Non, mais j'aime beaucoup les tiens, tu le sais déjà. Mais Pascal, elle a un truc, quoi. Ouais, alors je sais, vous allez dire, ouais, il dit ça parce qu'il est amoureux de la voix de Pascal. C'est pas ça du tout. Si, bien sûr, je suis amoureux de la voix de Pascal. Mais Pascal, elle a ce petit quelque chose en plus de tous les reporters, peut-être. C'est que c'est pas la reporter qui vient de son monde, là, toi, de journaliste privilégié, tendre un instant son micro au plus défavorisé, et puis qui repart une fois que c'est dans la boîte. Pascal, elle s'immerge dans le monde à la rencontre duquel elle va. Et elle aime les gens, et elle partage leur vie. Bon, comme tu faisais chez les nénettes, quoi. Et ça, c'était, ça, c'est formidable. Il y a eu plein de petits détails aujourd'hui que j'ai beaucoup aimé. Le souci de l'exactitude aussi. Lorsqu'elle raconte que on s'est retrouvé par hasard sur la route avec Agathe. Le besoin de dire non mais c'est pas trafiqué, ça s'est trouvé comme ça. C'est ça la vérité. Et on l'entend rarement ça.
Eh ben, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux, merci, merci, merci. Quelle va être la chose la plus importante ce soir à partir de 21h? Eh ben, ce sera les mots. Oui, les mots. Bien sûr, les idées, bien sûr, les gestes, bien sûr, les phrases, mais d'abord les mots. Et on a voulu s'intéresser aux mots, aux mots eux-mêmes. Les mots de Ségolène Royal et les mots de Nicolas Sarkozy. Nous, enfin surtout Damon Mayafre, il est chercheur, il est historien et il pratique la logométrie, c'est-à-dire oui, la logométrie, c'est-à-dire le nombre de mots prononcés et le sens qu'on peut leur donner si on passe les discours de l'un et de l'autre dans par un ordinateur et par un énorme logiciel. Alors, c'est surprenant. Mais ça donne des résultats. Souvenez-vous, Damon Mayafre avait publié un livre sur les mots du président en 2005, sur les mots du président Chirac, et ça s'était avéré tout à fait révélateur de l'inconscient, du conscient du président. Alors aujourd'hui, avec François Ruffin, on est allé voir Damon Mayafre et on va voir ce qu'il nous dit de ces deux candidats qui se présenteront ce soir en duel à nos suffrages.
Bonjour Manuel, je vous téléphone d'une jolie région en France qui a le nom d'un fromage, le Cantal. Je suis de la classe ouvrière, je gagne très peu, je vote à droite. Et j'ai vu une belle représentation de démocratie aujourd'hui à Aurillac sur la permanence de Sarkozy, des gens tagants, je précise, des gens de droite, du Parti Socialiste Aurillacois. Tagants, Sarko, facho, Sarko, nazi. Croix-Guillemets. Voilà. Bon. Bon courage à tous. Au revoir.
Rendez-vous au repère de Monchy-Breton dans le Pas-de-Calais entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Arras ce jeudi à 18h30 chez Tartous et compagnie. Donc venez nombreux, nous aurons beaucoup de sujets de conversation. Je pense qu'il va falloir deviser, comme on dit, en patois. Allez, à plus. Au revoir.
Eh, hey, l'ami de là-bas, si j'y suis. Tu sais qu'on se retrouve le 6 de chaque mois à 6h du soir pour notre repère de messe. Mais le 6, ça tombe dimanche et il y aura une grosse surprise. On t'en reparlera. Mais ici, pour l'instant, on chôme pas. Le repère de messe marche tellement bien que l'on fait des extras. Alors, je t'explique. Bah, ce soir, c'est le visionnage démocratique du débat Sarko-Sego. Tu sais, le grand méchant loup et la petite chaperon rose. Eh bah, ben, c'est à voir en public, hein. À plusieurs, c'est mieux que tout seul chez soi. Eh ben, on t'attend ce soir dès 20h30 au café de la Renaissance de rue Vignier-Saint-Avold à Metz. Allez, ciao!
Salut, c'est Daniel Mermet.
Faites attention parce que j'ai choisi le vocabulaire. La sémantique a un sens. Je vous propose de liquider toutes les politiques inefficaces.
Alors là, on se trouve dans une UMR, c'est-à-dire une unité mixte de recherche, mixité voulant dire que c'est à la fois universitaire, l'Université de Nice, et le CNRS. Et on est dans un des laboratoires importants de la Faculté des Lettres, qui s'appelle Base, Corpus et Langage.
D'accord, donc là, il y a des photocopieuses et des ordinateurs partout, quoi.
Oui, c'est un peu nos outils de travail. Il y a quand même une bibliothèque aussi, qui est certes pas toujours très bien rangée, mais il y a des livres, des ordinateurs. Et puis, ce qui fait notre caractéristique ici à Nice, c'est qu'on travaille sur des corpus. Alors, des corpus de textes littéraires, des corpus de textes politiques.
Et vous avez travaillé sur quel corpus, alors?
Alors moi-même j'ai travaillé donc sur des discours de l'entre-deux-guerres, donc à l'époque c'était lors de ma thèse sur Torres, Blum, Flandin et Tardieu, et puis ensuite j'ai travaillé sur les discours de la Ve République, De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, les deux septennats Mitterrand et Jacques Chirac.
Et aujourd'hui, vous travaillez sur quoi ?
Et aujourd'hui, ben, je travaille en partie sur la campagne électorale, puisqu'on organise ici à Nice un colloque fin octobre. Donc, on essaye de saisir ces discours. C'est presque la plus grosse difficulté, dans la mesure où on est maintenant très au point à la fois sur le logiciel et sur la méthode. Alors, des fois, on a été obligé de scanner les discours, mais en ce qui concerne les discours de la campagne électorale, je dois dire que ça ne m'a pas demandé trop de travail, puisque aussi bien le site de Désir d'Avenir que le site de l'UMP diffusent les discours le lendemain, en général, du jour où ils ont été prononcés. Et que, donc, il suffit de faire, en quelque sorte, un copier-coller.
Donc là, il y a les photographies sur votre ordinateur, d'un côté de Nicolas Sarkozy, de l'autre de Ségolène Royal, à droite de Ségolène Royal et à gauche de Nicolas Sarkozy.
Ouais, non, il faut pas y voir une symbolique. Simplement, c'est pour montrer que j'ai fait une étude contrastive, donc des deux discours. Tous les discours de Ségolène Royal et tous les discours de Sarkozy en meeting depuis le 1er janvier. Donc ça fait vraiment de très gros corpus, avec l'exhaustivité. C'est ça quand même l'avantage du corpus, c'est qu'il y a tous les discours. Alors, ça c'est mon logiciel. Donc simplement pour vous donner une idée de l'importance du corpus, vous pouvez lire ici donc les textes de Sarkozy, puis les textes de Royal. Il y a 1077 pages de Ségolène Royal et à peu près l'équivalent de Nicolas Sarkozy.
Sarko, oh oh, Sarko, à l'Élysée, oh, Ségo, Ségo, Sarko, c'est la France qui te parle.
Alors, ce qui est intéressant, évidemment, dans le logiciel Hyperbase, c'est que l'on peut faire un traitement quantitatif du vocabulaire des deux candidats et voir quels sont les mots privilégiés de l'un et de l'autre. Alors, justement, je tiens simplement à préciser que ce ne sont pas les mots qui sont les plus utilisés en valeur absolue. Le mot le plus utilisé en valeur absolue pour l'un comme pour l'autre, c'est le mot « là ». Le déterminant là, comme tout locuteur français. Donc ça n'aurait aucun intérêt de constater ceci. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le mot qui discrimine le plus Royal de Sarkozy et Sarkozy de Royal.
Ben dis donc, hein. Oh là 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 là. On est chez c'est le gars qui vient avec une blouse blanche, vous savez, pour les enzymes ou pour le dentifrice, pour lui dire à quel point c'est sérieux et important. Ben c'est sérieux et c'est important. C'est Damon Mayavre, donc dialectologie, diachronie linguistique, énonciation, laboratoire, base, corpus et langage. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, ce qu'on fait là, c'est qu'on va quand même s'amuser et puis on va apprendre beaucoup de choses en s'amusant avec ce chercheur.
Donc il suffit que j'appuie sur ce bouton et je vois ici s'afficher le vocabulaire spécifique de Nicolas Sarkozy. Des mots qui sont typiquement sarkoziens, en quelque sorte. On va commencer par les deux premiers, qui sont donc très fortement significatifs de Nicolas Sarkozy. Et vous voyez que ce sont les mots, l'adverbe de négation « ne » et l'adverbe de négation « pas ». Donc ça, c'est toujours intéressant pour un chercheur de constater ça, parce que c'est quelque chose qui est, j'allais dire, infra-intuitif. Vous ne pouvez pas tellement le deviner à la simple écoute. Simplement, l'ordinateur, lui, ne s'y trompe pas et dit que la première caractéristique du discours de Sarkozy, c'est que c'est un discours de la négation. C'est-à-dire que c'est un discours qui nie, en quelque sorte, la position de l'autre avant d'affirmer la sienne.
Je n'aime pas la politique qui se contente de gérer. Je n'aime pas la politique qui est persuadée que rien ne peut être changé. Je n'aime pas la politique qui voudrait que le monde est tel qu'il doit être. Je n'aime pas la politique quand elle dit « on a tout essayé ». Je n'aime pas cette politique. Je ne crois pas à cette politique.
Il ne faut pas, nous ne devons pas, je ne veux pas, nous ne pouvons pas, etc. Il y a chez Nicolas Sarkozy 7174 fois cette tournure-là. Évidemment, ce qui m'intéresse, moi, c'est que derrière une caractéristique linguistique, ou on va dire purement rhétorique, je pense que ça fait écho à un message fondamental. Vous avez peut-être suivi le discours de dimanche soir et la charge de Nicolas Sarkozy contre mai 68, mais d'une certaine manière, c'est une traduction linguistique de cette charge. Dénoncer mai 68 dans la bouche de Nicolas Sarkozy, c'est dénoncer le fameux « il est interdit d'interdire hein ». Et bien là, dans son discours, il met en forme cette façon de faire et avoir un discours de l'interdit. Il utilise par exemple 39 fois l'expression « nous n'avons pas le droit de hein ». Donc il y a eu cette expression de père Fouettard que Royal a prononcé à son encontre et lui-même a repris d'une certaine manière avec un petit sourire cette expression. Oui, c'est un peu le père Fouettard. Celui qui se propose d'interdire des choses là où la société serait devenue trop laxiste.
Ils avaient proclamé les héritiers de 68 que désormais tout était permis, que l'autorité c'était fini, que la politesse c'était fini, que le respect c'était fini, qu'il n'y avait plus rien de grand, plus rien de sacré, plus rien d'admirable, plus de règles, plus de normes, plus d'interdits, bon résultat en vérité. Souvenez-vous du slogan de mai 68 sur les murs de la Sorbonne. Vivre sans contrainte et jouir sans entrave.
Le troisième mot caractéristique va d'une certaine manière un peu décevoir puisqu'il s'agit toujours pas d'un mot thème comme je sais pas travail, liberté, justice ou autre chose, mais c'est le pronom personnel indéfini on. Alors là aussi ça pourrait paraître je sais pas anodin. En fait derrière ce on il y a aussi toute la rhétorique de Sarkozy qui se dessine. C'est un discours donc avec une sorte de tension entre le je de Nicolas Sarkozy et un on indéfini qui représente quelque part l'opinion publique ou la pensée générale. Ça laisse planer sur le discours de Sarkozy une sorte de menace, on va dire. On nous dit qu'il y a, et on ne sait pas qui est vraiment défini derrière ce « on ». Je peux vous donner des exemples qui sont très significatifs de ce « on » impersonnel et de cette menace qui plane. Par exemple, on ne peut pas continuer comme cela, on ne peut pas continuer à détruire des milliers d'emplois, on ne peut pas continuer à amputer le pouvoir d'achat.
On ne peut pas répondre à la souffrance sociale. C'est triste, mais on n'y peut rien. On ne peut pas continuer de répondre à l'angoissante question de l'avenir, que le marché est tout et la politique rien. Je n'accepte pas cette vision, parce qu'elle est fausse. L'accepter, c'est le faire le lit de tous les extrémistes. Je n'accepte pas l'idée que le combat politique ne sert à rien. Je n'accepte pas l'idée que la mondialisation soit le nouveau nom de la fatalité. La politique est impuissante quand elle ne veut rien. Quand on ne veut rien, on ne peut rien. Moi, je veux beaucoup, et nous allons pouvoir beaucoup. Voilà!
Là, c'est le « on » de la fatalité auquel il oppose finalement le « jeu » de la volonté.
Oui, c'est exactement ça, dans la mesure où le « jeu » est très souvent associé au verbe « vouloir » chez Sarkozy. « Je veux un discours très volontaire », une sorte de fatalité, de menace d'un « on » extérieur qui plane sur le discours.
« Je veux rendre aux travailleurs la première place dans la société et je n'accepte pas que l'assisté ait les mêmes revenus que le travailleur, parce que c'est injuste. »
Le quatrième terme discriminant, c'est un point.
Alors, oui, effectivement, vous voyez bien à l'écran, et là aussi, ça a plus dans des de sens qu'il n'y paraît. Pourquoi le point? Tout simplement parce que Nicolas Sarkozy fait des phrases plus courtes que Ségolène Royal. Pour vous faire une idée très précise, Nicolas Sarkozy utilise des phrases en moyenne de 27 mots, lorsque Ségolène Royal fait des phrases de 36 mots. C'est quelque chose que l'on retrouve, par exemple, dans le débat Bush-Kerry que j'ai pu étudier avec un collègue, et on a pu constater que Bush faisait des phrases très efficaces, très courtes, qui s'adressaient au plus grand nombre, on va dire, lorsque Kerry se perdait, d'une certaine manière, dans des phrases un peu plus alambiquées, un peu plus construites, qui, paraît-il, devenait un peu inaccessible à l'américain moyen. Eh bien, ici, on retrouve un petit peu ce contraste. Ségolène Royal, des phrases plus longues et plus construites, et Nicolas Sarkozy, des phrases plus courtes et plus efficaces.
Le peuple français aujourd'hui est en mouvement. Il a une soif profonde de changement. Il a besoin de se rassembler sur des valeurs fondamentales, celles que je vous propose dans le pacte présidentiel que j'ai construit avec vous au cours d'une démarche participative nouvelle, parce que je veux la rénovation de la vie politique française. Je crois qu'on ne gouverne plus aujourd'hui des pays complexes sans écouter les citoyens et sans construire les choses avec eux. Et ce sera aussi ma façon demain de présider la France présidente.
Je veux changer les choses pour répondre aux problèmes de la France et des Français. Et c'est pourquoi j'y suis allé dans cette campagne avec mes rêves de jeunesse.
Je voulais dire simplement qu'il y avait aussi chez Nicolas Sarkozy un certain nombre de mots, on va dire, positifs qui peignent un peu en rose son discours. Et c'est les mots, ce sont les mots rêve, rêver, mais aussi vivre, vie. C'est le rêve des républicains, le rêve méditerranéen, vous voyez, le rêve européen, un rêve à méditer, un rêve de civilisation, etc., etc.
Je vous demande de rêver. Je vous demande de faire le rêve que le peuple français tout entier se lève. Je rêve. Je rêve. Je rêve que vous viviez. Je rêve. Voilà mon rêve pour la France du 21e siècle. Alors oui, oui, je rêve. J'ose rêver. J'ose rêver d'une France où chacun trouvera sa place. Mais parce que j'aime cette France, parce que je la respecte, je ne veux pas la laisser caricaturer par une minorité qui ne lui ressemble pas, qui ne cherche qu'à attiser la violence et la haine.
Alors, ceci, il faudrait le développer, hein, sans aucun doute, cette notion de rêve, de vie, de vivre un peu aussi, cette exaltation de la volonté de vie, un peu façon le surhomme nietzschéen. Mais il y a aussi un côté beaucoup plus noir de son discours, et là encore, ça n'échappe pas à Hyperbase. Visiblement, Sarkozy s'applique à utiliser le vocabulaire de la haine. Et vous allez voir que c'est très spectaculaire. Prenez par exemple le mot haine tout simplement. Il l'utilise 183 fois depuis le 1er janvier contre 3 fois simplement à Ségolène Royal. Si vous prenez maintenant le verbe haïr, il l'utilise 41 fois contre une fois seulement chez Ségolène Royal. Si vous prenez le mot détester, vous allez trouver ces mêmes proportions, 29 contre 0, je crois. Détestation, vous allez trouver encore la même chose. Et d'autres termes un peu avoisinants, comme mépris. Il ne s'agit pas d'un hasard linguistique, hein, il s'agit d'une volonté de marteler ces termes-là.
Alors, il dit qu'il est lui-même quelqu'un qui déteste et qui haït les autres ou...
Alors non, il y a deux choses à dire. D'une part, évidemment, Nicolas Sarkozy ne dit pas frontalement « je hais ceci » ou « je hais cela ». C'est simplement, il suppose une haine chez l'autre, et cette haine supposée lui permet, en quelque sorte, à son tour, de haïr. Par exemple, il dit « je déteste cette détestation de la France ». C'est parce que les gens se mettent à haïr la France qu'il s'autorise à son tour de détester.
Il est méchant avec les méchants, il déteste les détestateurs.
Un autre exemple, en ces temps où la nation est dénigrée, où les Français se font un titre de gloire de haïr la France, je veux dire que pour tout Français, la haine de la France exprime d'abord la haine de soi, que cette haine de soi est la forme la plus achevée de la haine de la vie. À ceux qui haïssent la France et son histoire, à ceux qui n'éprouvent envers elle que la rancœur et du mépris, je dis qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ce thème de la haine ou de la détestation, hein, revient pratiquement toujours dans le cadre du développement de ses idées sur l'identité nationale et sur l'immigration.
En ces temps de repentance, où l'on veut faire expier par les fils les prétendues fautes des pères et raviver de vieilles haines qui appartiennent à l'histoire, en ces temps où la nation est dénigrée, où des Français se font un titre de gloire de haïr la France, je veux dire que pour tout Français, la haine de la France exprime d'abord la haine de soi-même. Haïr son pays, c'est de détester soi-même. Et je veux dire une chose, c'est que cette haine de soi, c'est la forme la plus achevée de la haine de la vie, c'est-à-dire le contraire de ce que je propose.
Il y a des mots qui sont, on va dire, à la limite du discours républicain traditionnel, puisqu'on trouve dans le discours de Nicolas Sarkozy, bah, des mots comme voyou, par exemple. Là aussi, je me permets de dire ça, parce que quand on entend le mot voyou à la télévision, on peut peut-être penser que c'est un dérapage incontrôlé. Non, c'est une vraie volonté d'affirmer ce terme-là. Il apparaît 105 fois depuis le 1er janvier dans la bouche de Nicolas Sarkozy, parce que Ségolène ne l'utilise que 3 fois. Donc évidemment, ça devient un mot très discriminant.
La politique de la vie que j'appelle de mes voeux, c'est celle qui ne tolère pas l'enfant racketté, la jeune fille violée, celle qui n'accepte pas la loi des grands frères, qui ne sont rien d'autre que des petits caïds ou des grands voyous. Celle qui ne tolère pas la politique de la vie. Celle qui ne tolère pas sur le territoire de la République française l'excision. Celle qui dit aux polygames qu'ils ne sont pas les bienvenus sur le territoire de la République française.
Ce qui est sûr, c'est que Nicolas Sarkozy, il s'est approprié un certain nombre de thèmes et de termes du Front National. Je sais que Nicolas Sarkozy a répondu lorsqu'on lui a reproché d'avoir parlé de ces moutons qu'on égorge dans un appartement, a répondu que Jacques Chirac s'était permis de parler de l'odeur en son temps. La comparaison n'était pas tout à fait juste, puisque chez Jacques Chirac, c'était d'évidence, une sorte de dérapage qui avait été saisi, même si c'était à la tribune, que c'était tout à fait officiel, lorsque chez Nicolas Sarkozy, il y a une vraie revendication, non pas une fois dite, mais plusieurs fois répétée, de montrer du doigt la polygamie, l'excision, le voile.
C'est un thème qui revient, ça,
c'est un thème qui revient. Je sais pas, le mot polygamie. Vous voyez, c'est pas anecdotique, ça revient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin bref, une vingtaine de fois. Donc la phrase, elle est répétée, hein. Ceux qui veulent soumettre leurs femmes, ceux qui veulent pratiquer la polygamie, l'excision, le mariage forcé, ceux qui veulent imposer à leurs sœurs la loi des grands frères, ceux qui ne veulent pas que leurs femmes s'habillent comme elles le souhaitent, ne sont pas les bienvenus sur le territoire de la République française. Évidemment, la République a toujours interdit la polygamie, mais c'est cette façon de répéter des phrases que l'on retrouvait précédemment dans la bouche de Jean-Marie Le Pen qui peut choquer des républicains, je pense, comme François Bayrou, parce que c'était une ligne, je répète, rouge ou jaune de la République. Une phrase significative de Nicolas Sarkozy, ou la plus significative, c'est « L'assistanat, c'est le contraire de la responsabilité, parce qu'avec l'assistanat, l'homme subit au lieu de vouloir. » Vous voyez, à la fois le discours offensif, une dénonciation très marquée d'un phénomène qui serait l'assistanat, et puis l'efficacité rhétorique, une phrase qui tient donc en une quinzaine de mots forts, qui plus est.
Ça me rappelle, j'ai lu le discours d'Agen prononcé par Nicolas Sarkozy, qui est le discours fondateur de la doctrine sociale, on va dire, de Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai qu'on voit dans le discours d'Agen une opposition permanente entre la France qui travaille, même qui gagne peu, la France des bas salaires, contre la France des sans-salaires, la France des chômeurs, la France de l'assistanat, qui est présentée comme étant un peu parasitaire. Et à l'inverse, tant qu'on a cette France qui travaille, qui est jamais opposée à la France qui gagne beaucoup.
Effectivement, le gros de son discours consiste à désigner, au fond, un bouc émissaire. Donc là, on voit l'assistanat, mais de manière plus violente encore, il y a l'assisté. L'assisté, ce ras-le-bol à un endroit, il parle de ce ras-le-bol des gens qui payent des impôts pour entretenir des assistés.
Je ne peux pas accepter une société où un assisté est à la fin du mois davantage que celui qui travaille.
Et je n'accepte pas que l'assisté ait les mêmes revenus que le travailleur, parce que c'est injuste.
Moi, je veux qu'on vive dans une société où il n'y a pas un seul assisté qui puisse gagner autant qu'un travailleur. Parce que si, en faisant rien, on gagne autant qu'un travailleur, on ne respecte pas les travailleurs.
La politique de la vie, pour moi, c'est le contraire de l'égalitarisme et de l'assistanat.
C'est quand même extraordinaire de vous trouver le seul à venir dans les usines.
J'y viens parce que j'aime ça. Et parce que je respecte cette culture ouvrière. Que personne parle des travailleurs. J'ai repris le mot, c'est vrai. Parce que je respecte le travail. Je voudrais que vous me compreniez bien. Moi, je veux une société où il n'y ait pas un seul assisté qui gagne autant que le travailleur. Parce que quand vous revenez à la fin du mois, et qu'il ne reste rien, et que celui qui est dans le même immeuble, il ne travaille pas et qu'il a la même chose, ça, c'est pas normal.
Donc une façon effectivement de dresser l'ouvrier contre le chômeur dans cette façon de faire, effectivement on désigne que rarement la France des plus riches.
Par exemple les actionnaires, est-ce qu'ils sont présents dans le discours de Nicolas Sarkozy?
Alors,
parce que on oppose la France du travailleur pauvre à la France de l'assisté, mais est-ce qu'on oppose la France des travailleurs à la France des actionnaires, à la France des rentiers?
Alors, l'avantage d'avoir un corpus exhaustif et d'être outillé là par un logiciel, c'est que l'on peut répondre à votre question sans risque de se tromper.
Je veux que la transparence soit plus grande sur la rémunération des dirigeants et que les actionnaires aient leur mot à dire, car il n'y a aucune honte à récompenser le risque qui est pris. Donc là qu'on voit qu'on n'est pas dans la dénonciation de l'actionnaire, mais au contraire on demande à lui donner davantage de pouvoir.
Tout à fait. Donc c'est plus la co-gestion avec les ouvriers, mais c'est l'actionnaire qui doit avoir quand même un droit de contrôle. L'actionnaire qui devient celui qui contrôle le patron. C'est un discours décomplexé, notamment au niveau du capitalisme. C'est un mot qu'il n'a pas peur de revendiquer, et mieux que ça, qu'il revendique largement plus que Ségolène Royal le dénonce, par exemple. Hein. Il l'utilise 138 fois dans la bouche de Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas sûr qu'un autre candidat de droite sous la Ve République a osé autant affirmer ce mot-là. Donc il y a une re-idéologisation de la droite française autour d'un capitalisme décomplexé. Et face à ce capitalisme qui est vanté, il y a une dénonciation, par exemple, regardez, de l'étatisme. Donc Chirac, par exemple, utilisait très peu souvent le capitalisme. La droite, ça je l'ai étudié aussi bien dans ma thèse que dans le livre sur Chirac et sur De Gaulle, Pompidou, Giscard. La droite s'est toujours méfiée et a toujours dénoncé l'idéologie. Et en général, donc, la droite s'applique à se priver de ses moïsmes. Et là, j'ai été frappé de voir que tout au contraire, Nicolas Sarkozy n'avait pas peur de les utiliser.
Je suis le candidat de la droite républicaine et ça ne me gêne pas de dire que l'éducation, que la culture, ça ne dépend pas des seules règles de la concurrence et du marché.
On peut regarder d'ailleurs le mot libéral, si vous voulez, chez Nicolas Sarkozy. Je suis libéral, mais j'ai la force de dire qu'il y a des dérives de la finance qui ne sont pas acceptables. De la même manière, je revendique le droit d'être libéral.
Là, il y a une revendication du libéralisme
chez Nicolas Sarkozy, très clairement. Et précisément, il pense qu'une droite moderne aujourd'hui sera nécessairement une droite libérale. Alors, la seule nuance qu'il apporte, vous voyez, c'est qu'il convient d'humaniser ce libéralisme ou de, comme il le dit, de responsabiliser les actionnaires, par exemple. Mais il n'empêche que dans le cadre du capitalisme mondialisé, comme il dit, il pense que c'est la seule doctrine économique valable. En France, la droite a toujours eu du mal à se reconnaître comme étant libérale et elle avançait au contraire une tradition purement française, donc gaullienne ou gaulliste, dans laquelle l'État continuait à jouer un rôle important dans l'organisation de l'économie. Il y a un vrai changement stratégique ou en tout cas au niveau des discours et une volonté de revendiquer sans complexe ce libéralisme.
C'est la France qui doit rappeler au monde que le capitalisme a besoin pour être accepté de répondre à une exigence spirituelle et une exigence morale. Je suis un libéral, au sens où je crois à la liberté.
De même que le mot droite aussi, la droite a toujours eu un complexe, on va dire, dans la République face à la gauche, depuis les origines, depuis 1789, hein, puisque la droite est associée à la monarchie et la gauche à la République. Et pour cette raison, donc, la droite a souvent avancé masquée et ne s'est jamais revendiquée comme étant de droite. Eh bien, chez Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de complexe à ce niveau-là, même si il faut moderniser cette droite, même si il faut sans doute nuancer cette droite, le mot apparaît aussi. C'est une stratégie réfléchie, une idéologisation de la droite qui a été mise en place depuis 2002, même peut-être un tout petit peu avant, une sorte de reconquête au niveau des esprits. Je demande donc tous les passages où il y a le mot « droite » pour savoir les mots qui sont donc quantitativement associés à ce mot.
Alors le mot « droite » est associé au mot « gauche », donc par opposition.
Mm-hmm.
Elle est associée au mot « républicaine ». Elle est de droite, mais républicaine. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a Londres qui arrive. Alors Jean Moulin,
ouais.
Anti-Dreyfusard. Là, quand on tape le mot « droite », on voit quand même qu'il y a une vraie pensée historique chez Nicolas Sarkozy.
Il y a la chrétienté, il y a les socialistes, il y a les croisades même, il y a Mendel. On est effectivement dans le cadre de, vous le savez, de cette fresque historique que Nicolas Sarkozy s'applique à dresser et que l'on retrouve que rarement chez Ségolène Royal, parce qu'on ne retrouve pas chez elle cette volonté de dresser un panorama ou d'inscrire sa future présidence dans une continuité historique qui, vous le voyez chez Nicolas Sarkozy, s'origine tout simplement dans les croisades. Et alors, on peut en historien quand même sourire de se concentrer de référence, et on sent que c'est en partie artificiel, mais ça n'empêche que je pense que d'un point de vue idéologique, le travail qu'il fait, sans savoir s'il sera élu ou non, sera utile en quelque sorte à la droite, qui pourra se revendiquer de ce précédent sarkozien dans la fierté au fond d'être à droite sous la République en France.
Le chant des partisans, c'est peut-être la meilleure façon d'apprendre à aimer la France et donc à aimer la vie. Ce chant des partisans dit quelque chose comme ça. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sortira de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, car dans la nuit, c'est la liberté qui nous écoute. Eh bien, de Jules Ferry à Maurice Druon, c'est ça la France, mes chers amis. Je n'ai plus que deux choses à vous dire, mais je veux vous les dire du fond du cœur. Je veux vous dire vive la République et vive la France.
Sarko à l'Élysée, oh,
Sarko.
Maintenant, on peut peut-être faire avec Royal, voir comment elle voit, elle, la gauche.
Alors, si vous voulez. Ah ben, il n'y en a que 137 chez Royal.
Donc, il y a moins d'occurrence du mot gauche chez Royal que du mot droite chez Sarkozy.
Oui, il y en a moins. J'avais vu qu'elle se revendiquait assez rarement de la gauche.
Elle associe alors, le mot gauche à quoi, alors?
Alors, vous allez voir que ce n'est pas dans la fresque historique comme chez Nicolas Sarkozy pour la droite. C'est les valeurs de gauche, c'est l'éternel progrès, la volonté de rassembler, la volonté de changement. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus flou, les femmes, le féminisme, etc., etc.
Alors, où est-ce que elle parle de valeurs de gauche, mais alors où est-ce qu'il y a... Ou est-ce qu'il y aurait l'égalité? L'égalité,
alors,
elle est où?
Alors, l'égalité, je ne sais pas si elle apparaît. Je peux vous dire pour elle quel est l'adjectif qui qualifie le mieux la gauche, ou en tout cas sa pensée. C'est le mot juste, qui est mis un peu à toutes les sauces. Une France juste, un ordre juste, une autorité juste.
Je veux construire un ordre économique et social juste. Je ferai la réforme de l'indice des prix. Nous utiliserons des indices de prix différents, tenant compte de la réalité de la dépense des familles pour revaloriser les retraites. Le SMIC et les minima sociaux par la justice commencent par là, par le juste calcul de la vraie, du vrai pouvoir d'achat. Vous m'avez dit, vouloir que le travail soit payé à son juste prix, eh bien, je vous ai entendu et je n'aurai de cesse, si je suis élu, que de répondre à votre juste impatience.
En ce qui concerne le vocabulaire de Ségolène Royal, d'évidence, son discours est moins typé que celui de Sarkozy. C'est-à-dire qu'elle impose beaucoup moins une signature lexicale que Nicolas Sarkozy. Le discours de Ségolène Royal est plus difficilement palpable. Alors, pour contraster avec Nicolas Sarkozy, c'est voir cette utilisation, non pas du « on », mais cette fois-ci du « nous ». Alors, l'énonciation dans les discours politiques, c'est toujours un phénomène intéressant à étudier, voir comment une personne se marque dans le discours. Est-ce qu'il dit « je », est-ce qu'il dit « nous », est-ce qu'il dit « on », est-ce qu'il dit « vous ». Chez Ségolène Royal, il y a, comme chez Sarkozy, une très forte récurrence de « je », mais ce « je » se confronte avec un « vous » dans les débats participatifs, par exemple, un peu au fond le « je vous ai compris » de Ségolène Royal, et débouche sur un « nous » qui se veut rassembleur.
C'est-à-dire que d'un côté, on a Nicolas Sarkozy qui, par le discours de la haine, montre une division, et elle qui souligne une unité.
Chez Ségolène Royal, il y a cette volonté de marquer ce vivre ensemble, selon son expression, de rassembler un camp et au-delà de ce camp pour un discours plus collectif, on va dire, plus rassembleur. On a vu que le discours de Sarkozy était très négatif, ne pas comme les premiers mots. Et vous voyez là, très bien placé, vous avez au contraire le mot oui. 268 fois, hein, qui plus est, donc c'est pas anecdotique, de marquer donc cette volonté positive de construire ensemble, alors le nouveau, le ensemble, le oui, le nous, qui la caractérise.
Oui, ensemble, nous allons donner un coup de jeune à cet état colbertiste, jacobin, centralisé à l'excès, roulant sous le poids des bureaucraties inutiles. Ensemble, nous allons mettre l'État, à l'heure de ce désir d'autonomie, de responsabilité civique et de liberté que j'ai senti monter d'un bout à l'autre de la France.
C'est un peu difficile de définir ce discours de Ségolène Royal, qui est sans doute moins marqué, mais heureusement, Hyperbase permet de repérer, non pas les mots qui sont caractéristiques de Sarkozy et de Royal, mais les phrases. Parmi les 78 953 phrases, je crois, de mon corpus, celle qui, pour l'ordinateur, est la plus caractéristique de Ségolène Royal. Donc la première phrase qui sort, c'est « Le premier de ces thèmes, c'est l'éducation, bien sûr, la formation, l'accès au premier emploi et le nouveau pacte avec les jeunes. »
Donc là, c'est quand même une préoccupation sociale qui apparaît au premier thème de Ségolène Royal.
Il y a cette idée que la gauche de demain se reconstruira d'une certaine manière par l'effort particulier qu'elle accordera à la formation, à l'éducation, à l'université. Ce sont des termes qui reviennent et qui sont martelés par Royal.
La deuxième phrase là, qui est la plus caractéristique de Ségolène Royal, je pense que ce serait pas mal de la lire.
Je vous laisse faire.
Alors. Bon, il le sera dès maintenant pendant la campagne électorale, et je dirai dans mon programme présidentiel comment nous allons nous y prendre, nous appuyant sur les propositions des organisations syndicales, parce que je crois que c'est dans la vitalité de ce dialogue que nous réussirons à construire une nouvelle donne dans les entreprises qui permettra là aussi à la France de se relever.
Effectivement, c'est très intéressant. Pourquoi ? D'une part, parce qu'on voit que c'est une phrase longue qui est difficilement compréhensible, et je l'ai noté, elle fait des phrases beaucoup plus longues que Nicolas Sarkozy. D'autre part, parce que, ne le cachons pas, on voit une certaine vacuité dans cette phrase, où il y a une sorte de proposition de ce que nous allons prendre en nous appuyant sur des propositions, des organisations.
Donc elle dit qu'on va proposer un dialogue qui viendra proposer des propositions pour éventuellement quelque chose qui permettra à la France de se relever. Ça, c'est dans un futur qui paraît assez lointain, c'est assez virtuel.
Assez hypothétique, et c'est fascinant, évidemment, que l'ordinateur repère ce que l'on a un peu tous pressenti, c'est-à-dire face à ce discours rouleau compresseur de Nicolas Sarkozy, un discours beaucoup plus mou, beaucoup plus flou et beaucoup plus virtuel chez Royal.
L'État, certes, garantira par un fonds de péréquation l'égalité entre les territoires, qui bénéficieront donc, pour remplir ces nouvelles missions, d'un transfert de ressources. Nouvelle mission pour les territoires, il y aura. Nouvelles intelligences territoriales, on verra naître.
Pendant la campagne présidentielle, il y a eu un fait qui s'est produit. C'était le record depuis tous les temps à la bourse française du taux de profit des entreprises du CAC 40 avec 100 milliards d'euros de bénéfices, dont 40 milliards de dividendes reversés aux actionnaires. Est-ce que si on tape dividende, on a une réponse ?
Dividende. Alors, une seule fois, depuis le 1er janvier, sur tous les discours de meeting, il y a une seule fois dividende dans la bouche de Ségolène Royal, zéro fois chez Sarkozy. Et c'est la phrase suivante,
qui est une phrase longue,
comme toujours chez Ségolène Royal, comme souvent.
Alors, nous devrons, pour encourager les entreprises qui investissent et qui innovent, moduler l'impôt sur les bénéfices des entreprises pour distinguer celles qui vont de l'avant, celles qui créent des emplois, et puis celles qui se contentent de distribuer des dividendes et souvent, au passage, d'annoncer des plans de licenciement pour faire monter le cours en bourse. Donc c'est la seule fois, dans une campagne où il y a eu le record du taux de versement des dividendes aux actionnaires avec 40 milliards d'euros, c'est la seule fois où Ségolène Royal s'en prend aux dividendes. Alors que là, finalement, elle pouvait avoir un adversaire, un ennemi sur le plan économique.
Elle prend un grand soin de ne pas aborder très précisément la question économique sur laquelle on le devine. C'est le cas de la social-démocratie maintenant depuis 20 ans. Elle est nécessairement un peu gênée par rapport à des principes qui restent affichés à gauche et puis une réalité de la gestion économique qui, ma foi, essaie de concilier le marché et puis une certaine justice sociale.
Nous relancerons la croissance économique parce que nous réconcilierons les intérêts des entreprises et les intérêts des salariés. Voilà la clé du développement économique. Nous le ferons et je le ferai en modernisant le dialogue social. Ceux qui réussissent et ceux qui vont de l'avant, ce sont les pays dans lesquels il y a un dialogue social de qualité et approfondi entre les organisations syndicales de salariés et le patronat. On sait qu'il s'agit là d'une réconciliation absolument indispensable.
Ça ne sert à rien de défiler derrière une pancarte le cœur dégoulinant de bons sentiments si la réalité n'a rien à voir avec les bons sentiments qu'on serine ou qu'on exprime. Que le discours désespérant soit laissé aux altermondialistes, aux communistes ou à une gauche qui n'a rien à proposer et rien à dire.
Là, on voit que chez Nicolas Sarkozy, il y a un véritable discours de combat qui désigne des adversaires idéologiques. C'est la gauche, ce sont ceux qui haïssent la France, c'est l'État. Est-ce que chez Ségolène Royal, il va apparaître un certain nombre d'adversaires comme ça ?
Alors, chez Ségolène Royal, le discours est, je vous l'ai dit, à la fois moins marqué et surtout moins, comment dire, combatif.
Donc, il n'y a pas là une dénonciation des 200 familles ou du mur de l'argent ou des spéculateurs ?
Non. Alors, je pense qu'il faudrait chercher sans aucun doute du côté du libéralisme. C'est-à-dire, d'une certaine manière, dans sa bouche, contre les excès du capitalisme. Vous voyez, c'est quelque chose qui est 18 fois utilisé, alors que Nicolas Sarkozy n'utilise pas tellement le mot libéralisme. C'est au contraire, en restant fidèles à nous-mêmes, que nous pourrons résister le plus efficacement au vent mauvais d'un libéralisme sans foi ni loi, et en même temps saisir l'ensemble des opportunités d'une mondialisation qui porte dans ses flancs le pire et le meilleur, selon ce que nous saurons en faire.
Donc là, Ségolène Royal, c'est la grande conciliatrice. À la fois, elle va pas y avoir le libéralisme sans foi ni loi, et en même temps, on saura saisir les opportunités d'une mondialisation.
D'une certaine manière, et je pense que ça la désobligerait d'entendre ça, mais ça me fait beaucoup penser au discours de Jacques Chirac que j'ai pu étudier sur ce thème de la mondialisation. Cette idée que la mondialisation portait le pire et le meilleur, et que l'on saurait, nous, Français, prendre le meilleur en votant pour Jacques Chirac comme en votant pour Ségolène Royal. Et laisser de côté le pire. Mais je vous promets que vous retrouverez ce genre de phrase dans le discours de Jacques Chirac au cours de à la fois son premier septennat et puis son quinquennat.
D'un côté, on a un discours de combat, mais est-ce que là, il n'y a pas du tout de discours d'optique de combat chez Ségolène Royal ?
Il n'y a pas d'optique, c'est peut-être qui sera sa force finalement au deuxième tour, c'est-à-dire que dès le départ,
elle a essayé de, on va dire, pacifier son discours, quitte à ce qu'il paraisse mou. Et effectivement, on le retrouve avec cette absence, par exemple, du mot contre, du mot non, du mot combat, du mot battre, de la désignation de Nicolas Sarkozy. C'est vrai que quand on compare là à l'écran.
Alors que la directive du combat, c'est quand même une logique de gauche, si ça a été, en tout cas.
Pendant très longtemps, effectivement, la gauche, fière de son identité, combattait cette droite conservatrice lorsque la droite, un peu complexée de son identité, prétendait ne pas entrer dans les polémiques ou dans le combat idéologique, mais se présentait simplement comme meilleur gestionnaire du système. Et là, il y a effectivement ce retournement des choses, et c'est, je pense, d'autant plus perturbant pour l'électorat.
Nicolas Sarkozy qui emploie le terme « ne », le terme « pas », c'est Ségolène Royal qui, à l'inverse, emploie le terme « oui ». Est-ce qu'on retrouve pas là la France du « oui » et la France du « non » ? Bon, il y a eu des articles qui sont parus d'un certain nombre de géographes qui montrent que notamment la France des campagnes qui avait voté largement pour le « non » à la Constitution européenne là a voté en partie pour Nicolas Sarkozy. Le « non » à la Constitution européenne qui était un « non » aussi d'opposition à des logiques financières, de dénonciation du capitalisme, dénonciation du libéralisme. Enfin, il y avait une volonté de lutter contre quelque chose. Là, c'est pas du tout ce qu'on retrouve dans le discours de Ségolène Royal. Et on a l'impression que c'est plus passé ce discours de lutte, de combat, plus passé du côté de Nicolas Sarkozy.
Oui, c'est ce qu'on constate, qui fait que peut-être que la contestation, d'une certaine manière, est plus incarnée assez bizarrement, assez paradoxalement, par Nicolas Sarkozy. Sarkozy a, je pense, veut gagner par chaos. Très clairement, s'il y a une victoire de Nicolas Sarkozy, c'est objectivement un chaos des mouvements sociaux ou de la gauche. Il s'en cache pas, j'allais dire. Et pour cette raison, donc, il a ce discours très fort, très autoritaire. Ségolène Royal, elle aussi, ne s'en cache pas que, quoi qu'il arrive, au fond, elle changera pas fondamentalement les choses. Donc, d'entrée de jeu, elle se présente comme une sorte de candidat du consensus, de laquelle on pourra pas attendre des bouleversements majeurs dans la société française, mais qui peut rassurer, d'une certaine manière, face à la personnalité de Sarkozy.
Je n'aime pas la politique qui se contente de gérer. Je n'aime pas la politique qui est persuadée que rien ne peut être changé. Je n'aime pas la politique qui voudrait que le monde est tel qu'il doit être. Je n'aime pas la politique quand elle dit « on a tout essayé ». Je n'aime pas cette politique. Je ne crois pas à cette politique.
Globalement, ce qui ressort des discours et du vocabulaire, et j'apporte un jugement en regardant un petit peu le discours politique sur l'ensemble du XXe siècle que j'ai eu l'occasion d'étudier, c'est qu'il y a une défaite idéologique de la gauche qui n'ose plus affirmer son vocabulaire traditionnel. Vous ne trouverez ni prolétaire, ni bourgeois, ni ouvrier dans le vocabulaire de Ségolène Royal. En face de cela, ce qui est naturel, c'est que la droite se sent pousser des ailes et elle n'a pas peur d'avancer des thématiques, ces thématiques traditionnelles, que ça soit sur l'insécurité, que ça soit sur l'immigration, que ça soit sur l'identité nationale, en tout cas une certaine identité nationale, que ça soit sur ce capitalisme décomplexé. Donc il y a vraiment droitisation du discours, mais plus que ça, je pense, une défaite idéologique assez marquée, bon, que l'on peut ressentir après de façon plus générale sur le malaise de la social-démocratie et sur la gauche, non seulement en France, mais en Europe.
C'était un reportage de François Ruffin pour l'émission La Vassie J'y suis de Daniel Mermet. Merci à Damon Mayaf, chercheur en linguistique à l'Université de Nice où a été réalisé ce reportage. Damon Mayaf qui a étudié l'ensemble des discours de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. À la technique aujourd'hui, Mathias Alléon et Serge Viguier. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Koyen Guyenne, assisté de Charlotte Perry et le chef du répondeur, Christophe Imbert, attend vos messages au 01 56 40 37 37.